sommes jeudi 11 mai 2023. Il sonne 11h passé de quelques instants sur la nouvelle génération. Vous comprenez que c'est l'acte 4 à l'heure du Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Je suis au micro Pascal Lossou. La mise en onde est assurée par Michel Vitokbe Tomega. La mise en ligne, Jérôme Dakoucha. Club de la Presse, c'est avec nos radios partenaires, Radio Lumière à Aného, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Nos radios partenaires, on peut citer aussi des radios en ligne, Radio Gameli, Ibn Radio et aussi Radio Les Bénins. Club de la Presse, c'est également des sujets d'actualité qui sont commentés, analysés, décryptés par des confrères journalistes en studio et aussi avec des invités en studio avec moi. Alors, tout d'abord, j'ai déjà mes invités tout autour de moi ici au Club de la Presse. Alors, première invitée, c'est Madame Sossou Sefako Amé Valérie. Madame Sossou, bonjour.
Bonjour Monsieur Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Vous êtes alors coordinatrice de l'association Appel Togo, promotrice artistique et culturelle. Et vous êtes en ce studio pour parler alors de ce projet culturel que c'est vous ça. Menez depuis, il y a déjà la première édition. Cette année, vous allez procéder à la deuxième édition. Alors, tout d'abord, nous voudrons connaître plus le projet.
Oui, merci. C'est le projet intitulé Salon artistique. Mmh. C'est un salon qui était né d'un diagnostic que nous appelons souvent et constat dans la langue du profane. Et d'abord, le tout premier constat, et c'est il s'agit de la perte d'identité culturelle des jeunes. Mmh. Donc, et tout de suite, j'allais dire que c'est un projet destiné à toute la jeunesse togolaise et la jeunesse africaine pour aller plus loin. Mmh. Et donc, le deuxième constat émane des métiers d'art qui sont ignorés ou oubliés. Et donc, souvent, lorsque nos jeunes frères et sœurs abandonnent les classes ou bien ne veulent plus continuer les études ou l'école, ils veulent embrasser un métier. Ils ont de la peine à choisir un métier. Et il y a les métiers classiques, la maçonnerie, coiffure, et tresse, et menuiserie, mécanique. Mais il y a d'autres métiers au monde aussi qui peuvent valoriser leur performance et même les rendre fiers de leurs parents. Et justement, à ce niveau, il y a aussi des parents que nous sensibilisons sur cette thématique pour les amener à orienter mieux leurs enfants qui voudront prendre ces métiers ou bien laisser fort ces secteurs d'art. Et donc, le troisième axe du salon artistique touche le tourisme. Et quand on parle de tourisme, tout le monde se tourne vers nos frères et sœurs de la race blanche ou jaune, blanc en général, alors que nous tous, nous sommes des touristes. Et en un mot, le salon regroupe les trois secteurs avec une douzaine d'activités que nous menons, mais plus axées sur la formation, la sensibilisation et l'évaluation de ces secteurs et en termes de mobilisation de ces jeunes autour des activités. Donc, il y a le grand salon que nous organisons. Il y a d'autres activités qui annoncent le salon pendant, avant ou après. Et donc, sur toute l'année, on a un agenda qui couvre ce salon. Et donc, en quelques points résumés, j'allais dire que c'est un salon qui vient à point nommé pour booster déjà la politique de la consommation locale, puisque plus on prend conscience des métiers qui puissent concourir aussi à l'éclosion et socio-économique, mais plus on encourage l'auto-emploi de jeunes. Et en dernier lieu, on revient à notre bercail. Il faut qu'on sache d'où nous venons, où nous allons, qui nous sommes. Et c'est là où on parle de l'identité culturelle. Il faut valoriser. Il y a des jeunes qui confondent la religion, la culture, la tradition. Ils ont perdu toutes les notions. Ils ne savent même pas définir leur nom, leur prénom. D'où ils viennent, ils ne savent pas.
Et le mal même d'ailleurs, c'est des gens qui, voilà. Y a certains qui refusent alors des noms
c'est
identiques.
C'est ça. Et ces jeunes, malheureusement pour nous, c'est un constat avéré. Ils se marient, ils ont des enfants. Et alors, au lieu qu'ils assurent la progéniture pour transmettre les valeurs morales culturelles à leur progéniture, et c'est une perte totale pour nos communautés, nos nations et même toute l'Afrique entière. Et si on ne fait rien, on ne se lève pas, vraiment, on risque de se faire vraiment enterrer totalement par nos valeurs culturelles. Et donc, nous sommes en train de préparer la progéniture et de les mettre en éveil de conscience pour qu'on puisse sauvegarder à tout prix nos valeurs traditionnelles, culturelles.
Voilà. C'est parfait. Vous valorisez même d'ailleurs
c'est nos... C'est ça. Et nous mouvons les talents artistiques et nous définissons que tout le monde est artiste puisque nous sommes faits à l'image du premier artiste qui est Dieu, le créateur. Voilà. Le monde a un talent.
Alors, madame, revenons un tout petit peu sur le bilan de la première édition. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Quelles sont peut-être alors des activités que vous avez à votre actif?
Oui, la première édition, l'année passée, en mois de mai, précisément, pareil moment, on était en pleine course.
Il y a peut-être un an.
Voilà, et c'était une édition rassemblant une cinquantaine de jeunes, couvrant cinq catégories de secteurs d'art. Il y avait la joaillerie, la poterie, la sculpture, les accessoiristes modélistes, il y avait les potiers. Et donc, et ce groupe agroalimentaire cosmétique, et on les avait formés. Et la prise de conscience, pour la plupart, était un peu en somnolence, ou bien même perdait espoir dans ce qu'ils savent faire, ou bien comment le faire mieux. Surtout, on met là-dessus la qualité, la finition de produits qu'ils créent, ou bien qu'ils essayent d'innover. Et donc, ça a été une réussite par rapport aux objectifs. Et donc, aujourd'hui, on a les évaluations, les résultats qui continuent. Il y a l'émergence dans la plupart de leur vie professionnelle. Il y a certains qui ont repris leur activité alors qu'ils étaient en train de vouloir démissionner, tourner la page et même rentrer dans les rêves imaginaires. Et donc, on les a resserrés et ils ont pris conscience qu'il faille vraiment se positionner. Il faut savoir, donc, il faut recentrer le jeune sur son talent réel. Il ne faut pas que le jeune s'en disperse. Donc, on a eu vraiment ce résultat positif et nous, on remercie le ministère de la Culture et les autres ministères qui sont impliqués dans le projet.
La jeunesse
en général. Certains jeunes hésitent à emboîter le pas, mais cette deuxième édition nous montre déjà que le projet est en train d'être vraiment pris en compte par les uns et les autres. Et c'est le lieu d'inviter tous ceux qui voudront bien appuyer. C'est un projet social, c'est une activité vraiment artistique, culturelle, mais qui a un caractère social parce que c'est la formation des jeunes. Et pour l'avenir, il faut qu'on assure vraiment cette progéniture. Donc, la deuxième édition est en pleine préparation et déjà... Et j'annonce que la couleur de la deuxième édition par rapport à la première, ce n'est plus cinq catégories, mais ce sont les 12. Parce que depuis le démarrage ou bien la création de ce projet, c'est 12 activités, 12 secteurs. Donc, on dirait 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc, et quand je dis 12 secteurs, il y a les 7 arts de l'UNESCO, les 7 arts de l'architecture, la peinture, les arts de la scène, les arts du son, la musique. Tous les 7 types de l'UNESCO, plus maintenant les catégories que nous appelons. Et ça regroupe les artisans. Donc, on a les artistes et les artisans dans le salon artistique. Donc, les agroalimentaires, ils utilisent les produits agricoles, ils les transforment et en découle des consommations ou bien des produits cosmétiques qui sont à notre actif pour notre bien-être, notre santé d'ailleurs. Donc, ceux-là constituent le groupe de 12 ensemble de toutes les catégories qui sont là et dorénavant on ne va plus fermer comme on l'a fait l'année dernière. On limite les participants dans leur catégorie. C'est tout le monde qui est attendu maintenant à venir prendre des stands pour travailler. Et la particularité de notre salon, ce n'est pas une exposition. D'abord, c'est vous venez, ce que vous êtes, vous le démontrez, ce que vous savez faire, vous le faites. Et nous, on fait appel à des consultants, à des experts, des gens qui ont de l'expérience dans les mêmes secteurs pour venir les coacher, les former, voir comment ils essayent de travailler ces produits et les amener à une meilleure production bien fini.
Non, voilà. Là, je dirais que c'est une exposition, ça. Mais cette fois-ci, la particularité, c'est une exposition de talent, exposition
oui, de ça.
Compétences.
C'est ça, de compétences, de talent, et en même temps, la découverte de nos valeurs culturelles. Voilà, il y a au programme beaucoup de choses qui illustrent ce que je suis en train de dire, et c'est vraiment, et il y a d'autres surprises que nous sommes en train de réserver,
justement.
Et nous sommes en... Nous sommes ouverts à toute personne qui voudrait bien se rejoindre à nous. C'est vraiment un salon qui est une action collective.
En attendant les surprises, aujourd'hui, avec ce projet, quel est ce type alors de citoyens jeunes que vous voulez former?
Tout jeune, nos activités, comme je l'ai dit, les tranches d'âge, déjà tout jeune, à partir de 4 ans, il y a des activités pour les enfants de 4 à 17 ans. Mais au-delà, ce dont je suis en train de parler pendant une semaine, c'est pour les jeunes à partir de 18 ans. De 18 ans, même quarantaine, parce que la jeunesse, ça s'arrête jusqu'à au-delà de 40 ans.
Tout à fait.
Donc, c'est la tranche d'âge de jeunes. Donc, tous les jeunes, de toutes les catégories d'âge, sont attendus de tous les sexes. Et même au-delà des jeunes togolais, il y a des jeunes africains qui habitent, qui résident sur le sol togolais, qui sont aussi, parce qu'il y a d'abord la culture africaine qui nous rassemble, que ce soit du Bénin, du Togo, du Burkina, mais il y a aussi le Togo qui doit retracer sa propre histoire dans sa propre culture. On a l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui au Togo se perd. Elle ne sait plus vraiment quelle est son identité culturelle dans la sous-région. On copie, vous voyez un peu dans le domaine de vestimentaire. Et voilà, je veux coudre Goudon Jolantan, je veux coudre Ibo Style. Mais quel est le style vestimentaire du jeune Togolais? Donc voilà un peu des exemples de thématiques que nous avons autour. Et là, je précise que le thème général pour cette édition, c'est la créativité au service du changement. Vous voyez un peu, Monsieur Pascal, on est en face de beaucoup de défis de l'heure et il faut qu'on mette la jeunesse à sa main, à la patte pour qu'on puisse relever ces défis à travers la créativité. Parce que les grands pays de la planète Terre qui ont eu des déclins dans l'histoire, c'est par le domaine artistique culturel qu'ils ont connu la renaissance. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire à travers ce salon.
Voilà. Alors, Madame Soussou, c'est vrai que quand on prend aujourd'hui ce défi de la perte alors d'identité, c'est vrai, c'est saute aux yeux. Hein, quand vous voyez même d'ailleurs le jeune Togolais, il y a un certain nombre de choses qui démontrent vraiment cette perte alors d'identité.
C'est ça.
Et au finish, c'est vrai que aussi c'est fond, le problème est profond, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation et que justement il faut attaquer plutôt ce côté de l'éducation?
Voilà, vous l'avez bien compris, c'est d'ailleurs pourquoi il y a le volet, les parents éducateurs sont aussi associés dans le salon. À leur niveau, on les sensibilise à prendre conscience de l'enjeu et ensemble, nous on est à leur côté pour les appuyer dans l'éducation, dans leur rôle parental, à l'endroit de leurs enfants qui sont nos cibles. Donc, c'est justement une question de culture et de tradition. C'est-à-dire qu'il faut conserver à tout prix la transmission des valeurs culturelles. Déjà, quand l'enfant vient au monde, comment lui attribuer un prénom? C'est là le problème. On ne choisit pas un prénom d'un enfant, un prénom qui a une racine d'une langue étrangère qu'on ne maîtrise même pas. Dans les écoles, il y a la langue française qui nous rassemble parce que nous quatre ici, par exemple, on peut être de différentes ethnies, mais c'est la langue, excusez-moi, du colon qui nous rassemble, qui fait qu'on arrive à se comprendre. Mais quand nous retrouvons notre bercail, il faut qu'on soit en mesure de valoriser notre langue. Vous voyez un peu. Donc, il y a tellement des aspects de cette question d'identité culturelle que sur lesquels nous maintenons notre accent et que nous nous battons par nos activités pour faire prendre conscience les uns les autres. Et j'allais dire que moi, quotidiennement, chaque jour que Dieu fait, je vis des cas, je vis tellement des situations qui prouvent à suffisance que vraiment l'enjeu est de taille et il faut qu'on mette la main à la pâte pour relever le défi. Sinon, on est en train, comme on le dit dans ma langue, et l'alélémi, et l'achadialémi. Donc, il faut, les jeunes deviennent parents, retournent au mercail pour se faire former. Et il faut faire extrêmement attention, je le dis, répète, moi, je commune toujours sur cet angle-là, dans ce sens que la religion est l'un des enfants de la culture. Dans une culture, vous allez trouver plusieurs religions. Une seule culture, vous voyez un peu. Donc, il ne faudrait pas confondre la culture et la religion. Donc, c'est ce que nous constatons au sein de la jeunesse. Ils confondent vraiment tout. Et quand on parle de jeunes, je le dis, ce ne sont pas des élèves, des étudiants. Je parle même des gens qui sont dans les quarantaines, cinquantaines. Ils sont au foyer. Et tout ce monde-là sont attendus dans notre salon pour apprendre à être à l'école. Et il y a une activité fondamentale que nous appelons Festival des ambassadeurs culturels. Et c'est vraiment une étape, une activité à quatre étapes de formation. Être élu ambassadeur, ambassadrice et continuer la civilisation dans ta base, dans ton quartier, dans ta ville. Voilà, nous, on te forme et on te renvoie en mission pour que tu continues le travail de sensibilisation. On t'appuie. Et tu fais un planning et il y a des jeunes qui sont déjà en train de se former et vont être élus à une soirée du programme de la deuxième édition comme étant ambassadeurs, ambassadrices culturelles au sein de leur communauté.
Madame Soussou, merci beaucoup. Mais dernière question avant peut-être alors de vous laisser. Et c'est surtout le suivi par rapport à cette activité que vous menez, activité alors de formation culturelle, fonction également artistique et en tout genre. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait par après, surtout en matière d'insertion professionnelle?
Oui, d'abord, à long terme, ça va être visible. Mais tout de suite, je l'ai dit, on est à la deuxième édition. Mais on a déjà ce que nous appelons la plateforme et le réseautage qu'on crée pour ces jeunes qui sont sortis de la première édition. Ils sont là, on les accompagne. Ils sont là, ils sont suivis. Il y a des gens, je vous assure que ils découvrent, ils ont aujourd'hui des marchés. Mais hier, ils ne pouvaient pas gagner ces marchés parce que ils sont passés d'une étape à une étape supérieure et ils continuent d'apprendre. Il y a des formations, on les fait drainer, que pas forcément nous avons organisées, mais des opportunités que nous leur offrons pour qu'ils continuent ce que nous sommes en train de faire avec eux. Et donc, ils sont réunis en plateforme et il y a un suivi permanent. On leur demande de faire un retour de ce qu'ils produisent même dans leur atelier. Une petite vidéo pour montrer un peu ce que tu as. Voilà, tu as créé une marque. Qu'est-ce que tu véhicules? C'est là aussi l'un des aspects de ce qu'on leur apprend. Quand tu produis l'œuvre, mais il faut que tu sois en mesure de communiquer autour de l'œuvre. Surtout ceux qui sont dans les arts plastiques, les arts visuels. Il faut que l'œuvre là, c'est avec quelle matière première? Qu'est-ce que l'œuvre véhicule comme message? Quelle est la vertu de la matière première utilisée derrière l'œuvre? Parce que toute œuvre artistique a un message et une vertu qu'elle doit véhiculer. Donc, c'est très important. Ce suivi se fait. Maintenant, à long terme, il y a, à moyen terme, à court terme, il y a l'auto-emploi qui est là. Ça, on ne discute pas. Ça, c'est visible. Maintenant, à long terme, on est en train de vouloir pérenniser sous forme d'école. Voilà, vous voyez un peu. Et où ce que ça rentre même dans la vision du gouvernement togolais, dans la mesure où ils ont commencé avec les amis qui sont dans le monde, les tailleurs. Vous voyez, il y a déjà.
Et surtout dans la feuille de route
du gouvernement. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ce que nous sommes dans la droite ligne de cette vision-là. Il faut qu'on ait dorénavant des écoles professionnelles pour nos jeunes. Il ne faudrait pas qu'un jeune, quand ils veulent apprendre un métier, se disperse dans le quartier pour tomber sur de n'importe qui, des gens qui sont encore à l'échelle de à un niveau plus bas, ou être patron, patronne, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que on est en train d'encourager le fainéantisme, le manque de professionnalisme sans le savoir. Voilà, médiocrité sans le savoir. Donc, il faut qu'on ait vraiment des vrais professionnels, des autodidactes, qualifiés, qualifiables, qui puissent assurer la formation professionnelle, artistique et artisanale de nos jeunes. C'est très important pour nous. Et on sera, tout parent sera fier que quand le jeune prend la distance ou bien l'aspect école jusqu'à tomber dans un bureau, mais celui qui est à son propre compte, il faut que aussi son travail soit vraiment qualifié. Et les produits que la personne crée soient des produits de haute gamme, de bonne qualité. On n'a pas besoin forcément d'aller chercher des produits de l'étranger. On a des mains d'œuvre ici, chez nous au Togo. On a des talents. Il suffit de bien manager ces talents, de bien orienter ces jeunes. Et ainsi, nous allons voir les fruits, ce que nous pouvons. On peut avoir des produits de haute gamme aussi sur le marché togolais.
Voilà. Merci beaucoup, Madame Soussou, Sifako Amé et Valérie. Je rappelle tout simplement que vous êtes coordinatrice de l'association Appel Togo, promotrice artistique et culturelle. Mais vous restez avec nous parce que déjà à partir de midi, tout à l'heure, il y a les confrères, enfin, il y a des amis auditeurs auditeurs qui vous suivent en direct, qui vont vous poser des questions, je sais sûrement. Mais de vous, nous partons pour une autre dame qui peut-être, enfin qui bien évidemment maîtrise bien son identité, surtout son nom identitaire, l'affirme bien. Et je veux bien parler de Dédé Folie Betula. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'Association togolaise pour la promotion des mathématiques au secondaire, ATPMS. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Voilà. Alors, quand on parle de votre association, comment se porte aujourd'hui l'association?
Tout d'abord, je salue les auditeurs et auditrices. Mmh. Donc, l'association se porte très bien. Mmh. Malgré les difficultés, on dirait que l'association se porte très bien.
Quand vous parlez de difficultés, vous faites déjà allusion à quoi?
Non, vous savez que dans tout projet ou bien dans toute organisation, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des manquements. Donc, tout n'est pas parfait. Donc, c'est pour cela que je dis, malgré les difficultés, l'association se porte très bien.
Alors, madame, vous êtes la présidente de l'Association togolaise pour la promotion des mathématiques au secondaire. Et c'est vrai que pour certains à la maison, on se dit, mais c'est quoi la nécessité de la mathématique de telle enseigne qu'on crée même une association pour sa promotion?
Donc, tout d'abord, nous savons que si on demande à la majorité des élèves quelle est votre matière ou bien quelle est la matière que vous détestez, vous allez sûrement écouter, on va choisir en grande partie les mathématiques et on l'a surnommé même cette matière la bête noire. Mmh. Donc les élèves ont toujours peur de cette matière qui utilise les X et les Y et nous pensons qu'il faut créer un cadre organisé, une situation ou bien mettre en place une situation pour pouvoir promouvoir cette matière auprès des élèves en général et aussi en particulier chez les jeunes filles. Donc, d'où la nécessité de créer cette association qui essaie de promouvoir les mathématiques auprès de la jeunesse scolaire et aussi en même temps de former les futurs enseignants et les futurs utilisateurs des mathématiques pour notre pays.
Alors, madame, c'est vrai que vous mettez plus l'accent sur les filles. La promotion de la mathématique, alors chez les filles, c'est quoi le constat? Est-ce que c'est parce que les filles ne font pas alors de bons scores en matière de mathématiques?
Oui, pour cela, d'où vient l'idée même de créer cette association? Lorsque j'étais au lycée, je me suis rendu compte que nous étions moins de 5 de la seconde en terminale. Et lorsque j'étais arrivé à l'université, dans la promotion de 2000 à 2005, je pense, il n'y avait pas de filles. Et donc, de la première année en troisième année, il n'y avait pas aussi assez de filles. Donc, soit c'est une fille ou bien deux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place une organisation ou bien faire une promotion de cette matière déjà au niveau des élèves dès le secondaire pour que à l'université on puisse avoir des filles parmi les garçons. Parce que le constat demeure toujours le même. Et il y a des filières, vous les prenez encore, j'ai une étudiante qui est seule dans son domaine. Donc, ces situations demeurent encore sur le campus lorsque les filières sont à dominance mathématique. Donc, le constat est clair. Donc, peu de femmes s'engagent et peu de jeunes filles s'engagent dans les filières à dominance mathématique. Donc, c'est pour cela que nous essayons de promouvoir cette matière auprès des élèves en général et chez la jeune fille en particulier.
Alors, c'est quoi la complexité? Puisque c'est vrai, vous l'avez dit que c'est vrai, nous avons même taxé cette matière de bête noire et parce que ce n'est pas souvent à la portée alors de tout le monde. C'est quoi le secret pour arriver à faire la mathématique, peut-être alors pour les jeunes élèves qui nous écoutent actuellement?
Nous voyons que les élèves n'arrivent pas à réussir les mathématiques compte tenu du poids des stéréotypes aussi. Déjà, avant d'arriver en classe de 6e, les élèves essaient d'écouter X, Y et déjà, ils ont peur de ça. Donc, la société véhicule la matière des X et Y. Or, X et Y sont rien que des nombres. Donc, ce qui fait que, d'une manière générale, les élèves ont déjà peur. Avant de choisir les filières à dominance mathématique, alors là on se dit, si c'est comme ça, je préfère choisir la facilité au lieu de choisir ce qui est difficile, compliqué, dont tout le monde parle. Et donc, moi je pense personnellement, avec les expériences qu'on a essayé de faire sur le terrain, que pour bien réussir les mathématiques aussi, il faut maîtriser le cours. maîtriser le cours et aussi il faut que les enseignants soient aussi formés parce qu'il faut quand même apprendre à enseigner les mathématiques. Si on apprend à faire la couture, on apprend à faire de l'art, pourquoi ne pas apprendre aussi à enseigner les mathématiques? Donc c'est dans ce sens que nous voyons que les élèves ont besoin bien sûr d'être rassurés que les mathématiques c'est pas la bête noire, c'est la bête blanche en quelque sorte, mais il faut que les enseignants aussi essaient de ne pas décourager les élèves. Les phrases telles que « toi, tu n'es pas fait pour faire les mathématiques, qu'est-ce que tu viens chercher dans cette série ?» Il faut que ces phrases-là soient bannies complètement au niveau des enseignants. Et donc, je pense qu'avec ces améliorations, les mathématiques seront accessibles à tous les enfants. Donc, nous, à notre niveau, ce que nous avons essayé aussi de faire, nous avons essayé d'instituer des concours que nous avons dénommés les Olympiades togolaises de mathématiques et Miss Mathématiques. Pourquoi nous avons essayé d'instituer ces concours sur le plan national? Nous nous sommes rendus compte que sur le plan international, il y avait déjà des concours qui sont dénommés Olympiades. Nous avons essayé de contacter, lorsque j'étais étudiante bien sûr, parce que j'étais très curieuse pourquoi il n'y avait pas de filles à l'université. On a contacté les organisateurs de l'extérieur et là on a essayé de voir comment ils font. Et on a remarqué qu'il y a les Olympiades de mathématiques qui s'organisent dans les autres pays. Et il y a certains pays comme la Côte d'Ivoire qui organisait Miss Mathématiques. Miss Mathématiques, c'était uniquement pour les filles. Et les Olympiades, c'est pour tout le monde. Alors là, moi, je me suis dit, si on regroupe les filles à part et on essaie de leur faire les concours, si la première fille a 12, au moment où le premier garçon a 17 quelque part, on remet un prix à la première fille qui a 12. Déjà, l'écart est toujours là. Donc, il n'y a pas question de mettre les filles à part pour essayer de faire un concours premier la première où on est conscient que le niveau de cette fille est très bas par rapport au garçon. Alors là, il faut mélanger les deux. Donc, nous avons eu à discuter avec le président de la commission panafricaine des Olympiades en ce temps. Et nous lui avons suggéré le sujet de mélanger les deux. Alors, il avait parlé de reines mathématiques, etc. Et nous avons commencé par jubiler les deux concours et nous avons dénommé ça les Olympiades togolaises de mathématiques et Miss Mathématiques. Donc, nous voulons faire la promotion des filles parmi les garçons. Essayer de regrouper les filles à part, les encourager en essayant de rabaisser un peu leur niveau. Donc, c'est là.
Alors, pour faire la promotion des filles alors en mathématiques, il y a une journée même d'ailleurs qui est instituée. C'est le 12 mai, c'est-à-dire demain. Ce serait la journée, journée internationale.
Journée internationale des femmes en mathématiques.
Journée internationale des femmes en mathématiques. Et au cours de cette journée ou pour la célébration de cette journée, est-ce que vous avez des activités qui sont prévues pour la circonstance?
Et nous rappelons que cette journée est très récente hein, parce que lorsqu'on a créé la médaille, le prix Nobel, hein, on n'a pas attribué le prix Nobel aux mathématiciens. Et les mathématiciens étaient obligés de créer eux-mêmes une médaille qu'ils ont dénommée médaille de Fields. Donc depuis la création de cette médaille, donc jusqu'en 2014, il n'y avait pas de femmes. Moi, j'étais tellement frustrée de lire à chaque fois que c'était des hommes. Et en 2014, il y avait une femme qui avait remporté pour la première fois depuis la création la médaille de Fields. Donc, je me rappelle qu'on était très contente lorsque on parlait aux filles lors des camps organisés par le gouvernement à Palimé. Et c'était en 2014. Maintenant, après, ça n'a pas atteint 2 ans. Celle qui avait obtenu la médaille de Fields pour l'équivalent du prix Nobel est décédée. Et donc là, l'image de la femme en mathématiques va être effacée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, les mathématiciennes et appuyées par certains mathématiciens, bien sûr, on dit, on va prendre la date de naissance de cette femme qui a honoré la gente féminine, la date de naissance pour instituer la journée internationale des femmes en mathématiques. Et donc, cette journée a été instituée depuis 2019 et ça se célèbre de différentes manières dans les différents pays. Mais je me suis rendu compte que dans mon pays, on n'est même pas informé. Et les autorités sont plus ou moins informées, mais il y a des journalistes qui sont informés. Donc, et c'est pour nous l'occasion d'abord d'informer la population, les autorités et les partenaires du système éducatif qu'il y a une journée qui est dédiée pour les femmes en mathématiques. Et l'objectif de cette journée, c'est de montrer que les compétences des femmes en mathématiques sont ignorées. Donc les femmes ont des compétences en mathématiques, mais ces compétences ont toujours été ignorées. Donc l'objectif de cette journée, donc, c'est de faire ressortir, de montrer aussi que les femmes sont capables de faire, de poser des actions en mathématiques. Donc notre premier objectif, c'est de communiquer d'abord qu'il y a une journée qui est faite pour les femmes et ensuite maintenant mener des activités en partenariat bien sûr avec les acteurs du système éducatif de notre pays.
Et quelles sont peut-être des activités que vous voulez déjà mener à travers cette journée?
Donc déjà, nous avons déjà organisé des concours et ces concours regroupent les filles et les garçons. Donc nous primons les filles deux fois. Une fois que tu es parmi les 10 premiers déjà sur l'étendue du territoire, filles comme garçons, tu es primé. Maintenant, une seconde fois, on prime les filles pour pouvoir les encourager à exceller parmi les garçons. Nous faisons déjà des pas et donc nous avons fait les concours, ça c'est dans le mois de mai. Les activités autour de cette journée s'effectuent dans le mois de mai. Nous l'avons fait, le concours s'est déroulé le 6 mai. Et aussi pour cette année, nous avons l'élection de Miss Mathématiques que nous allons choisir parmi les meilleures filles de la classe de seconde. Et dans le futur, donc, nous allons essayer de discuter avec les inspections, les acteurs, les premiers acteurs du système éducatif pour voir est-ce qu'on peut regrouper les femmes, comment sensibiliser. Puisque déjà, il y a manque de femmes en mathématiques. Donc, je donne toujours l'exemple de l'université en espérant que d'ici peu, on aura une femme enseignante à l'université. Il n'y en a pas toujours. Donc, notre pays doit faire un effort au moins pour que la gente féminine soit représentée dans le domaine de mathématiques à l'université.
Madame, quel est le devenu de cette femme peut-être qui a excellé en mathématiques sur les bancs? Et c'est quoi son devenu? C'est quoi son avenir?
En fait, il y a plusieurs professions en mathématiques. Donc, on peut être statisticien, on peut être actuaire, on peut faire l'actuariat, on peut faire l'informatique. Il y a plusieurs domaines qu'on peut essayer de faire lorsqu'on fait les mathématiques. Mais malheureusement, nous déplorons. Il y a des bourses, on parle de projets. J'ai eu à faire des enquêtes. Peu de filles et de femmes au Togo ont eu des bourses ou bien des aides par rapport à tout ce qui se dit. Donc, pour le devenir, on doit en principe aider ou bien faire valoriser celles qui ont déjà réussi dans les domaines mathématiques. Mais bon, ce qui n'est pas tellement le cas. Et donc, disons le devenir, c'est-à-dire que tu fais les maths, tu choisis de faire disons un métier à dominance mathématique, je viens de les citer, oui. Eh bien c'est possible aussi de s'engager dans l'enseignement pour un certain temps. Donc je conseille toujours, bon, c'est pas que je demande aux gens d'abandonner l'enseignement, mais on peut quand même s'enseigner pendant un temps pour servir de modèle. Et là, donc, lorsqu'on est une femme, une fille, on s'engage à faire les filières mathématiques. On peut devenir aussi ingénieur. Il y a beaucoup qui sont ingénieurs. Je peux donner même l'exemple de l'actuel ministre de la promotion féminine qui a fait la série C et qui est aussi ingénieur. Il y a plusieurs femmes dans le gouvernement qui ont fait la série C. Donc, on choisit de bien réussir les maths, c'est pas forcément pour devenir enseignant. Donc, l'exemple est là dans le gouvernement. Quand on prend les grandes entreprises du pays, on peut retrouver des femmes qui ont fait les mathématiques. Mais si vous voulez aussi aider, on peut s'engager dans l'enseignement pour servir de modèle pendant un temps donné.
Alors, et rester dans l'enseignement ou du moins faire l'enseignement pour servir de modèle pendant un temps donné, c'est bien. Alors, quel est le message surtout que vous avez adressé pour cette journée du 12 mai?
Oui, donc on a à dire, donc je reprends le message du professeur Guidi Wandi. Donc, dans les domaines mathématiques, les femmes ont des compétences. Donc, nous demandons aux autorités, nous demandons à nos collaborateurs, nous demandons à la population d'accompagner, de reconnaître et d'accepter que les femmes peuvent avoir des compétences aussi en mathématiques et aussi encourager les femmes qui ont ces compétences en mathématiques.
Merci beaucoup, madame Folie Dédé Guetoula. Je vous rappelle tout simplement que vous êtes la présidente de l'Association togolaise pour la promotion des mathématiques au secondaire, ATPMS. Un confrère journaliste qui est avec nous, Magloire Kenvi Teko. Bonjour.
Bonjour à toi, Pascal. Bonjour à nos invités. Bonjour à tous les millions d'auditeurs et auditrices qui nous suivent actuellement sur la 95.5 et bien entendu par les canaux digitaux.
Voilà, vous avez bien dit que c'est des millions d'auditeurs qui nous suivent parce que nous sommes écoutés partout dans le monde entier. Alors, je ne sais pas, par rapport à ce que Mme Betula vient de développer, je ne sais pas si la mathématique a constitué pour vous aussi une bête noire.
Moi, s'il y a même un terme, je
plus dur que
plus
cela.
Plus dur que ça, parce que tous mes professeurs me connaissent à la matière. En fait, j'avais eu la volonté de faire les mathématiques, mais après, j'ai mais compris
que... Les mathématiques ne vous ont pas aimé.
Ils ne m'ont pas aimé du tout. Et donc, j'ai dû laisser carrément de côté pour mieux m'attaquer à ce que je sais faire le mieux, la littérature. Et nous voilà ensemble ici en train de discuter. Je crois que, de telle façon, nous sommes dans un monde où il n'y a pas que les mathématiques, il y a aussi la littérature. Il n'y a pas que la littérature, il y a aussi les mathématiques. L'essentiel est que quand vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez... nanti, n'est-ce pas, d'une certaine compétence dans une matière donnée, il faut vous y donner à fond. Ne surtout pas faire dans la compromission. Il faut tout donner, il faut faire tous les sacrifices qu'il faut pour y arriver. Je suis très fier, n'est-ce pas, d'écouter notre invité faire l'éloge, n'est-ce pas, de cette matière-là, bête noire pour nous autres, mais vraiment une matière à excellence pour beaucoup d'autres personnes. Elle a évoqué le cas de l'actuel ministre, je crois, en charge de la promotion de la femme.
Tout à fait.
Qui a également fait la série C avec une prédominante de la mathématique. C'est dire donc que oui, peut-être une matière bête pour certains, mais pour d'autres, ça peut être véritablement une force de conquête de la nature, véritablement. Et je ne peux donc que joindre ma voix à celle de notre invité, de son association, pour inviter, au-delà même de la gente féminine, tous les jeunes Togolais, tous les jeunes Africains qui peuvent encore le faire, à embrasser à cœur ouvert les mathématiques, parce que je sais, ça ouvre beaucoup de monde à un individu.
Ça ouvre beaucoup de monde à un individu, vous l'avez bien dit. Mais ce que vous savez bien faire, vous l'avez dit, c'est la littérature. Et aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef même d'ailleurs de Flambeau des Démocrates. Alors, à la une, alors de votre journal ce matin, vous écrivez « Togo, zone 1 ou zone 1, décevant recensement ». Vous parlez là de l'opération alors de recensement qui a été organisée même d'ailleurs dans la zone 1 ici. Et vous donnez cette appréciation de cette opération. Qu'est-ce qui a été décevant, Magla?
Qu'est-ce qui a été décevant? Je crois que vous êtes également journaliste. Au-delà d'être journaliste, vous êtes citoyen togolais. Vous avez constaté ce qui a été fait sur le terrain. Carrément, malgré la prolongation de 2 jours qui a été jouée, eh bien, on a constaté tout simplement que ça n'a pas véritablement permis de rectifier le tir, parce que lorsque vous faites une petite descente dans les centres de vote, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont mobilisés cette fois-ci pour se faire établir leur carte de lecteur. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de contraintes d'ordre organisationnel de façon générale, mais beaucoup plus d'ordre logistique. Et parfois, si ce n'est pas les machines qui sont tombées en panne, parfois c'est la lenteur constatée au niveau des opérateurs de saisie. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que lorsque des Togolais se voient pénalisés, n'est-ce pas, dans ce processus d'établissement de cartes d'électeurs, justement parce que
qui est un droit civique,
parce que l'encre est finie, on se demande on est où. Parce que la carte d'impression, elle est finie. Je me demande, mais est-ce que les gens jouent véritablement leur rôle? Et dans notre analyse assez holistique de la situation, on a carrément mis sur le banc des accusés 4 composantes. Naturellement, la CENI, qui, bien entendu, cette composante, on va dire, indépendante, autonome, qui gère son processus comme elle peut. Mais on se rend quand même compte que c'est le gouvernement en tant qu'entité politique qui organise les élections, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années déjà, le Togo organise les élections sur fonds propres. Et donc, c'est le gouvernement qui devrait mobiliser et les moyens financiers et les moyens logistiques pour permettre justement à la CENI de faire véritablement son travail. Maintenant, si à peine les opérations démarrent, qu'on constate que des machines tombent en panne, alors on se demande quel a été le conditionnement fait de ces kits-là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On sait que c'est un marché que nous propose un opérateur, on va dire privé, mais c'est de mèche avec le gouvernement. Alors on se pose des questions, comment est-ce que ces machines, ces kits-là ont été conditionnés pour que à l'œuvre, on constate qu'il y a des défenses. C'est vrai qu'on a affaire à des machines, ça peut tomber en panne, mais si ça arrive jusqu'à pénaliser un bon nombre de Togolais, ça dit qu'il y a un problème. Maintenant, l'autre aspect également, c'est que vous voyez, généralement, quand il y a élection comme ça, il y a des campagnes de sensibilisation pour inviter les Togolais à aller se faire recenser. Mais jusqu'alors, moi, personnellement, je n'ai vu aucune affiche en ville pour sensibiliser les gens. Il n'y a pas eu de spot dans les médias, il n'y a pas eu d'insertion dans les organes de presse. Ce que je vois, les rares campagnes de communication qu'on voit, c'est l'œuvre des associations. Alors on se demande, est-ce que le gouvernement, est-ce que la CENI, ces deux entités-là étaient réellement prêtes pour amorcer ce processus? Mais quand cela ne tienne, on nous parle du respect, n'est-ce pas, du calendrier républicain. Ok, d'accord, nous y sommes, mais voilà que nous sommes devant le fait accompli. Et aujourd'hui, les gens, hier, on accusait beaucoup plus les populations de ne pas aller se faire établir des cartes d'électeurs. Mais cette fois-ci, les gens y étaient, mais c'est les machines qui ont fait défaut, c'est les hommes qui ont fait défaut. Et ça, nous pensons que ce n'est pas de bon augure. Mais alors, entre autres entités que nous accusons, il y a également, bien entendu, l'ANPE, par exemple. Vous savez, l'ANPE, c'est cette agence nationale-là qui est supposée mettre à disposition de la CENI des opérateurs de saisie capables, n'est-ce pas, de relever le défi. Mais quand vous arrivez dans des bureaux que vous constatez qu'il y a de ces opérateurs de saisie qui, en tout cas, saisissent les noms des gens avec un seul doigt, mais vous vous posez des questions sur, on va dire, le travail minutieux qui devait être fait au préalable pour pouvoir choisir ces gens-là, parce que des gens ont postulé et on a étudié les dossiers au cas par cas pour choisir logiquement les meilleurs.
Et c'est parce que la compétence y est.
Et c'est parce que la compétence devrait y être.
Devrait y être, bien
sûr. Mais sur le terrain, lorsque, au 21e siècle, quelqu'un devant un ordinateur, il va avec un seul doigt, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour ça que nous disons, oui, c'est une opération d'enrôlement des électeurs assez décevante à la fin, mais les responsabilités sont partagées et pour nous, ça devrait être véritablement corrigé parce que nous sommes dans une république et que c'est des milliards de nos francs CFA qui sont engloutis. Je vous l'ai dit, le Togo, depuis quelques années, organise ses élections sur fonds propres. Il faut que ces montants qu'on a engloutis dans l'organisation de ces élections-là aboutissent à quelque chose de potable. On ne va pas se permettre à des gens de faire ce qu'ils veulent avec l'argent du pays que vous et nous allons payer à la fin, parce que c'est l'argent du contribuable togolais, c'est ce que nous faisons comme labeur qui participe justement à faire toutes ces opérations. Qu'on le veuille, c'est une question de fierté nationale, mais utilisons au mieux cet argent, parce que le Togo est, on va dire, les priorités sont un peu partout. Mmh. Mais si on estime que politiquement on doit organiser des élections pour que le calendrier républicain soit respecté, il faut alors que chacun joue véritablement son rôle.
Et il faut que chacun joue vraiment sa partition, c'est très important. Magola, comment vous expliquez le fait qu'il y a eu une influence grandissante au cours alors de ce recensement électoral, mais toujours est-il que pour ce qui concerne alors les machines, il y a des machines qui ont déconné et tout, mais l'influence était toujours au top.
Oui, l'influence était toujours au top, je vous assure, jusqu'au dernier jour. Et personnellement, ça m'a impressionné. C'est vrai qu'il y a des supputations dans la masse, mais on ne va pas s'en tenir à ça. Ce qu'on peut relever, c'est que on dira enfin que peut-être le Togolais connaît son droit, et naturellement son droit civique. C'est-à-dire que hier, c'était beaucoup plus les politiques qui dictaient la conduite à tenir, c'est-à-dire aller vous faire recenser ou n'allez pas vous recenser, mais on a compris que depuis quelques années déjà, le cours des événements a été un véritable cas d'école pour les populations togolaises qui, naturellement, ne veulent plus retomber dans les mêmes travers. Et aujourd'hui, on ne peut donc qu'apprécier, on va dire, cette maturité citoyenne dont fait preuve la population togolaise en se mobilisant massivement. Et moi, je le dis, c'est l'une des rares fois où on a vu des gens se bagarrer carrément dans les centres de vote pour ne serait-ce que se tailler une place dans la queue pour aller se faire enrôler.
Et il y a des gens qui se réveillaient même d'ailleurs à 3h du matin.
À 3h du matin, à 4h du matin, oui. On a vu des cas qui nous ont tout simplement éblouis. Moi, je dirais tout simplement que ce n'est que, on va dire, une victoire d'étape. Et les artisans, ils sont nombreux, je dirais, et les gouvernants, et les hommes politiques, et toutes les composantes de la société togolaise, la société civile qui depuis un bon moment martèle également pour dire également à la population togolaise qu'il était important que chacun dispose de sa carte d'électeur, parce que n'oublions pas que dans un passé récent il y a eu ce souvenir, on va dire fâcheux, de Novici qui a fait que beaucoup de Togolais étaient restés sur le carreau.
Oui, donc on dit que c'est par rapport surtout à cette opération
de
Novici.
C'est ce que je dis, que ben, dans la masse, il y a de ces supputations, mais on va pas s'atteler à ça. Et je crois que ce qui a fait dire également ceci à beaucoup de gens, c'est que par hasard de calendrier, c'est que la NADEB,
oui.
dans le cadre de l'un des projets de philosociaux, est en train de soutenir des foyers vulnérables actuellement, dont le projet pilote a cours actuellement dans certains quartiers. Et donc, beaucoup ont fait le lien directement, mais honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit véritablement le cas. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est ce bon qualitatif qui a été posé par la population togolaise. Il faut l'apprécier au mieux. Et c'est pour ça que je suis frustré que ces gens-là qui hier se refusaient d'accomplir leurs devoirs citoyens se réveillent du jour au lendemain pour dire, mais niet, on a péché, peut-être par ignorant, par le passé, et aujourd'hui, on se doit de se racheter. Ces gens-là n'ont pas mérité ce sort qu'on leur a réservé parce que du fait des pannes techniques dues aux machines qui ne fonctionnent pas, parce que par manque d'encre, parce que par manque de papier d'impression, ça n'a pas de sens en réalité. Moi, quand me disent que les machines sont tombées en panne, ça je peux encore comprendre parce qu'on a affaire à des machines qui, c'est comme nos engins, ça se porte bien, puis ça te lâche en cours de chemin. Mais qu'on nous dise que en pleine opération d'enrôlement, c'est-à-dire que nous ne sommes d'ailleurs qu'au premier jour, et que l'encre finisse, et que les papiers finissent, mais je me dis, est-ce qu'on était vraiment prêt? Est-ce qu'on était vraiment prêt? Et la question n'est pas anodine. Je me dis même, à l'heure actuelle, vous et nous, en tant que journaliste, on n'est pas capable de dire aux populations si entre les élections législatives et les élections régionales, lesquelles auront lieu en première position. On ne le sait pas. C'est-à-dire, on sait juste que dans quelques mois, on ira aux élections, mais on ne sait pas si...
Et même
si
le chef de l'État l'avait annoncé que cette année, c'est une année électorale.
Une année électorale, mais supposons que même c'est en décembre, ça veut dire que nous sommes en mai.
Oui.
Et il ne reste que peut-être
6-7 mois.
Et 6-7 mois. Normalement, même 6 mois, à 6 mois des élections, on doit avoir une idée claire du chronogramme. Mais aujourd'hui, on n'a pas une idée. Mais ce n'est même pas sûr qu'on ira jusqu'en décembre. Peut-être que ça va se faire selon les projections entre juillet et août. Mais c'est quand même un peu grave qu'on soit au mois de mai pour des élections supposées avoir lieu entre juillet et août, qu'on n'ait même pas une idée du chronogramme, c'est-à-dire que si on va d'abord faire les législatives avant les municipales, on patauge comme cela, on navigue à vue, et je me dis, ce n'était pas ça la réalité. Vous savez que le débat se posait il y a quelques mois déjà, où on se disait, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller au régional? Mais je crois qu'à l'heure actuelle, comme l'a dit quelqu'un, ce débat, il est caduque. On sait désormais qu'on a affaire à deux élections, mais il faut absolument qu'on travaille à avoir des élections vraiment préparées, vraiment clean, parce que quand on sait que les élections ne sont pas toujours source de, de gaieté dans notre pays, ça crée toujours des frustrations. On ne veut plus retomber, voilà, dans les mêmes travers. C'est pour ça, justement, qu'en tant que Togolais d'abord, avant d'être journaliste, on se sent frustré que c'est par manque de responsabilité, parce que c'est comme cela qu'on peut le désigner. Je le dis et je le répète. Comment est-ce que et le gouvernement et la CENI se débrouillent pour que, à 3 ou 4 jours après le début des opérations de recensement, qu'on dise que l'entrée est finie? Moi, je ne peux pas comprendre.
Vous ne comprenez pas.
Je ne peux pas comprendre.
Oui, Magloire, c'est vrai que lors d'une conférence de presse le mardi dernier, il y a la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, qui a dénoncé ce fait. Hein, ce que vous dites alors ne pas comprendre, la dynamique a dénoncé cela. Et la dynamique demande même d'ailleurs que qu'il y ait un rattrapage. Est-ce que c'est possible?
Et je crois que entre Togolais, aucun sacrifice ne serait trop grand. Je l'ai dit, nous sommes entre Togolais. Il n'y a aucun étranger qui viendra s'immiscer dans nos affaires internes. Et je me dis, entre Togolais, on peut s'entendre sur tout et rien à la fois. C'est-à-dire que si l'idéal est que qu'on permette à tous les Togolais en âge de voter, désireux naturellement de se faire établir leur carte d'électeur, si l'idéal était ça, d'abord leur permettre de se faire établir leur carte d'identité, et enfin leur carte d'électeur et aller voter, je crois que on devrait tout faire pour permettre à ce que chacun puisse être satisfait. Mais le constat que je fais aujourd'hui, c'est que même la prolongation qui a été jouée n'a pas permis d'atteindre les objectifs escomptés. Et c'est pour ça que moi je rejoins peut-être la DMP et d'autres acteurs, d'autres on va dire analystes qui pensent que le délai qui a été donné était un délai relativement très court, très court et qu'il faille un peu prolonger. Et donc, j'estime, oui, c'est un agenda qu'on essaie de dérouler. On va entamer bientôt avec la zone 2 pour finir avec la zone 3. Mais j'espère qu'à la fin, il va y avoir encore une période de transition ou je ne sais pas, une période qui va être définie pour faire le grand rattrapage pour toutes les zones. Je le crois sincèrement, si on veut vraiment faire quelque chose de sérieux, quelque chose de potable.
Alors, Magloire, nous allons rapidement quitter cette question alors de l'opération de recensement et nous allons parler cette fois-ci alors de cette visite alors du président de la République, Faure Gnassingbé, hier à Paris. Et il y a des journaux qui sont revenus sur ce sujet aujourd'hui. Il y a Chronique de la semaine qui titre à sa une à l'Élysée, le président Faure Gnassingbé accueilli en qualité d'artisan de paix et de stabilité en Afrique de l'Ouest. Alors, Le Tonnerre, le journal Le Tonnerre, titre à sa une, dîner de travail à l'Élysée, un nouveau triomphe diplomatique pour le président Faure Gnassingbé. Alors, Ouara les vainqueurs, qui titre à sa une, terrorisme, criminalité transfrontalière et extrémisme violent au cœur des échanges, parlant de cette visite entre Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron. Alors, vous, flambeau des démocrates, vous titrez à votre une aujourd'hui presque 2 heures de dîner de travail à l'Élysée pour Faure et sa délégation. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre qu'il y a eu lieu hier entre Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron?
Ben écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. C'était un dîner de travail entre deux chefs d'État. Bien entendu, il devrait se dire beaucoup de choses au plan diplomatique, au plan sécuritaire. Mais vous savez, lorsqu'on se réfère au dernier développement de l'actualité, on va dire sociopolitique dans la sous-région, et plus particulièrement au Togo, où on sent véritablement que depuis un moment, les velléités terroristes sont à nos portes, et que le Togo, depuis un moment, est en guerre. On peut le dire ainsi, en guerre avec des groupes terroristes. Je crois que il était quand même grand temps que des chefs d'État se retrouvent pour discuter. Alors si sur invitation, bien entendu, du chef de l'État français, Faure Gnassingbé s'est rendu à Paris pour échanger avec son homologue français sur, on va dire, la sécurité de façon générale et la criminalité transfrontalière. On parle également de l'extrémisme violent. Je crois que c'est de bonne guerre dans la mesure où aucun pays ne peut vivre en autarcie. on parle du Togo parce que justement le Togo, il est présenté, comme vous le savez, comme la porte d'entrée en Afrique de l'Ouest. Mmh. Alors si le Togo, pas méga peut-être, est vaincu dans cette guerre qui l'oppose aux terroristes, et que toute la sous-région, elle est foutue. Et donc, je crois que c'est de bonne guerre que la France, qui également a des intérêts en Afrique de l'Ouest, puisse véritablement voir dans quelles conditions on peut juguler les forces pour pouvoir contrer au mieux ces forces-là, ces individus sans foi ni loi qui sont en train de terroriser les populations, de mettre en péril l'économie de plusieurs pays de la sous-région. Et donc, vivement, nous, en tant que citoyens, c'est ce qu'on cherche, que des dirigeants se retrouvent, qu'ils soient des dirigeants africains, des dirigeants entre Africains et Européens. Le plus important, c'est que quand la paix est menacée quelque part, c'est que les signaux sont vraiment clairs que du jour au lendemain, ça peut arriver à n'importe où. Et donc, je pense que ce voyage de force en France, c'est de bonne guerre.
Doucement.
Mais le plus important, c'est que de cette discussion sortent de véritables résolutions à même de contribuer à asseoir la paix, la quiétude, telle que recherchée par les populations et les dirigeants. Parce que je me dis, vous voyez, dans la zone du Grand Nord au Togo, y compris jusque vers le Burkina, où plus de 2000 ou 3000 écoles ont été fermées, c'est que c'est l'éducation même qui est mise en péril. Vous voyez, ça fait une bonne marge de citoyens des deux pays qui sont privés d'éducation. Et quand ça y est comme ça, c'est quelque part le développement du pays qui est touché dans son amour propre. Donc, c'est un sujet assez sensible. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui est arrivé maintenant. On souhaite vivement que de bonnes résolutions sortent de ces travaux-là pour que peut-être un an, deux ans après, que les Togolais se disent, mais ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés.
Effectivement, c'est notre souhait. Mais Magola, est-ce que aujourd'hui, avec le fait que déjà la France est tellement désavouée dans le Sahel, et aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron ne voit pas ne voit pas le Togo comme l'interlocuteur direct avec qui on peut facilement discuter et sur la sécurité, surtout dans la sous-région, notamment dans le Sahel?
Oui, c'est bien possible. Vous savez, nous sommes dans la géopolitique.
Tout à fait.
Tout est possible. Surtout quand je me réfère à une récente déclaration du chef de l'État togolais, Fong Assimbi, lorsque la question lui a été posée par rapport à sa relation avec le président français. Il a dit qu'il n'était pas demandeur d'audience à l'Élysée et que le moment viendrait, il aviserait. Et ça, c'est, je crois, dans les années après la crise de 2017 qu'on a eue. Et je constate que en avril 2021, le chef de l'État était reçu à l'Élysée. Et ça fait la deuxième fois qu'il y retourne. Maintenant, comme je l'ai dit, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la diplomatie togolaise enregistre des exploits, il faut le dire ainsi. On sait le quiproquo politique qu'il y a eu entre les frères maliens et la CDAO. On a essayé par tous les moyens pour pouvoir trouver une solution, ça n'a pas marché. Il a fallu l'intervention de M. Fong Assimbi pour qu'il puisse avoir finalement la paix des braves. Et donc, aujourd'hui également, comme je le dis, le Togo véritablement mène un combat assez rude contre le terrorisme dans sa région septentrionale. C'est dit donc aujourd'hui, le Togo s'impose comme un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Et vu la victoire qu'on a eue entre griffes dans le conflit entre la CDAO et le Mali, et il y a même après le quiproquo qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Sur le cas des militaires. Voilà, des militaires qui ont été pris au Mali pour terroristes. Et je crois que tout ceci constitue aujourd'hui un atout majeur pour que le chef de l'État togolais puisse peser véritablement dans la balance aux yeux de la France. Et c'est pour cela que je me dis, ceux qui le disent aussi n'ont pas tout faux. Ils n'ont pas tout faux. Et en politique, tout est calculé. Chaque pas que les acteurs politiques posent à un, à un incident véritablement sur la géopolitique. Et aujourd'hui, ça ne peut être que, on va dire, la somme de tout ce que M. Fon Yassingbé fait et pour le Togo et pour la sous-région, notamment dans le règlement du conflit entre la CEDEAO et le Mali d'une part et entre le Mali et la Côte d'Ivoire de l'autre part. Aujourd'hui, il se montre comme véritablement un acteur majeur sur qui on peut compter. Et donc, ce n'est véritablement qu'une suite logique à mes yeux.
Merci beaucoup, Magloire. Magloire, il est midi déjà ici dans le studio bleu de la nouvelle génération Radio-Canal FM. C'est le temps de faire un clin d'œil d'abord à nos annonceurs et après, nous allons donner l'opportunité ou la parole à nos auditeurs pour nous poser des questions. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous vous donnons la parole alors pour poser des questions sur des sujets débattus ici au Club de la Presse aujourd'hui. Nous avons discuté avec nos deux invités, Madame Soussou Sefako et aussi Madame Betula Foli Dédé, qui sont toujours avec nous. Et également Magloire, nous avons discuté avec notre confrère Magloire. Il y a un auditeur qui est déjà entré en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Un peu bien.
D'accord.
C'est Bozambo.
Bozambo, allez-y s'il vous plaît.
Ok. Vous avez parlé de recensement maintenant.
Oui.
Et vous savez au Togo qu'on n'arrive même pas à faire les nationalités pour les Togolais. Les nationalités, c'est interdit pour les Togolais. Il faut aller, vous les journalistes, il faut aller se demander au ministre de la Justice pourquoi il est interdit de faire la nationalité au Togolais.
Interdit, c'est... vous dites?
Oui.
La nationalité.
Les gens ont déposé plus de un an, des gens six mois. C'est interdit, non?
Il y a des difficultés, certes.
Quelles difficultés?
Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit.
Non.
Il y a des gens qui continuent d'avoir leur nationalité.
Donc pour combien de jours? Pour avoir la nationalité, c'est pour combien de jours? Si tu as les dossiers à main, appuyé par 5 000, avec des thèmes, tout ça là. Donc ça ne doit pas traîner plus d'une semaine. Au moins une semaine, on doit faire la nationalité à un Togolais. Les nationalités sont là-bas pendant un an et 6 mois, 8 mois. Les gens en train de courir derrière la nationalité, ils n'arrivent même pas à trouver la nationalité pour faire la carte d'identité. Et c'est pourquoi les gens courent vers les cartes d'électeurs. Ils ont pris les cartes d'électeurs pour prendre leur valeur. Ils n'arrivent même pas à faire la carte d'électeurs aux citoyens togolais. Comment on peut continuer un pays comme ça? Et on disait tous les jours dans ce pays, les Burkinabés, les Maliens disaient que c'est les Français qui donnent les armes et qui nourrissent les rébellions. Et maintenant, notre chef de l'État qui est parti, que pour faire quoi en France? Pour aller négocier, pour nourrir encore les rebelles ou bien quoi? Jusqu'à présent, on n'arrive même pas à savoir pourquoi il était. On n'a pas sorti faire une conférence de presse et Togolais va savoir qu'est-ce qu'il est parti. On a dit qu'il est déjeuné avec le chef d'État français.
Et Bozambo,
ça fait quoi au peuple togolais?
Oui, Bozambo.
Oui.
Les sujets au cœur des discussions entre les deux chefs d'État a été révélé.
Révélé comment? Et vous n'avez pas dit, vous avez dit qu'ils ont dîné?
Non, nous avons parlé alors de le terrorisme.
Les terroristes?
Les
on dit que les Français qui nourrissent les terroristes. Est-ce que le chef d'État a le courage à demander Macron? Pourquoi vous nourrissez les? On dit que les Français qui prennent les armes, qui donnent les armes aux terroristes, qui font les carburants, qui nourrissent les terroristes. Vous êtes d'accord, c'est vrai ou faux?
Là, je ne suis pas à la place du chef de l'État pour répondre
à cette
question.
Et il doit demander. S'il est panafricain, il doit demander ça au peuple africain. Mais ils sont partis pour déjeuner. Déjeuner comment? Moi, je ne serais pas d'accord avec ça.
Merci beaucoup, Bozambo. Très remonté. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, madame ici. J'espère que vous allez bien.
La CENI est dirigée par un étranger ou un Togolais?
C'est un Togolais.
J'entends un nom, là.
Oui, c'est un Togolais. Bizarre. Oui, monsieur Yabré, c'est un Togolais.
Un Togolais ou un Burkinabé?
Non, c'est un Togolais.
Ah bon? Bon, ben, ça sonne Burkinabé, quoi. Et puis, bon, la carte d'électeur, les Togolais pensent que ça leur remplace la carte d'identité. Oui, parce que le régime leur a fait comprendre ça, quoi. Par ces histoires de d'Anadeb, FNFI, Moviti, tout le reste. Et ça, c'est pour profiter de la vulnérabilité d'un peuple. Et c'est interdit dans notre C92. C'est punissable. Comme les Togolais ne s'intéressent à rien, Et puis voilà, ils sont ignorants et ils sont dedans, quoi. Ils seront encore dedans. Pour la visite du président chez Macron, où il y a eu Bouti, là, qui a manifesté, ce n'est qu'un petit de chat, hein, parce que ça se passe depuis la nuit des temps où un millier de Togolais va coincer le président partout où il va dans le monde. Et ça, ça se dit pas. Il n'y a que ce truc-là d'hier que les gens en parlent, quoi. Hein, il faut parler des autres trucs aussi. Et les vraies choses se sont passées. Mais bon, comme c'est comme ça, le régime ne bouge jamais. Et puis voilà. Mais Macron pouvait encore faire la part des choses pour savoir que le régime a été installé au Togo du temps de De Gaulle, hein. Donc c'est trop loin. Il n'a qu'à faire la part des choses pour demander l'alternance en douceur sans élection. Voilà, vous pouvez le faire.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Essie. 22 21 33 114. Allô.
Oui, bonjour, Canal FM.
Bonjour, Canal. Oui, bonjour.
Sincèrement, je voudrais revenir sur le problème.
Oui, s'il vous plaît, le nom, c'est.
C'est Monsieur Claver Johnson.
Monsieur Flavien Johnson. Allez-y.
Oui, et le problème de nationalité, c'est vraiment très important. Sincèrement, et j'ai envoyé et faire la nationalité pour mon fils, j'avais l'ancienne nationalité, on a bloqué le mien, disant que c'est perdu. Ça fait 2 ans que je demande une nouvelle et certificat de nationalité, jusque-là, zéro. Ma carte est périmée, je ne peux plus aller à la banque, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus traverser les frontières, on me contrôle, c'est des problèmes. Comment est-ce que je peux vivre dans mon propre pays comme ça? Moi, un citoyen togolais, la pièce maîtresse avec laquelle je dois circuler, je ne peux pas l'avoir facilement. Est-ce que je suis un étranger dans mon propre pays? Non, ce n'est pas possible. 2 ans, ma carte d'identité est périmée parce que je n'ai pas pu avoir ma nationalité. Ce n'est pas possible. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de la Sécurité n'a qu'à revoir ça. Sérieusement, nous sommes des Togolais. Ayez pitié de nous. Vous voulez que nous vivions comment? Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de prêt à la banque. On ne peut plus rien faire. Je suis au Togo comme un étranger. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Johnson, pour cette intervention. Allô?
Oui.
Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui. Je ne suis pas à côté de la radio.
Oui, s'il vous plaît, le nom, c'est...
Oui, allô, je suis...
Oui, c'est nous...
Le nom
nous...
Ben.
Nous vous écoutons. Allô? Décidément, et c'est comme si Ben n'a pas le retour. 22-21-33-74, allô?
Oui, allô.
Bonjour.
Oui, bonjour.
S'il vous plaît, le
Monsieur
nom...
Kofi.
Monsieur Kofi, allez-y.
Oui, par rapport au sentiment. Mais tu portes à croire que... Là, ce n'est pas que certaines personnes soient en Russie. Vu l'organisation, la planification qu'ils ont fait, le président avait dit dans son intervention qu'ils ont l'agenda, mais que ça ne va pas se trouver sur la place publique. Est-ce qu'ils ont délibérément planifié d'empêcher certains Togolais de se faire enrôler? Et par qui est-ce qu'ils vont les remplacer? Moi, je ne comprends plus rien. Il avait dit aussi qu'ils travaillent en collaboration avec les opposants. Sa collaboration, les soins, ils ont planifié empêcher certains citoyens de s'enrichir. Qui nous vient nous répondre à cette question-là? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Kofi. 22-21-33-114. Allô?
Bonjour, mon directeur.
Oui, bonjour, monsieur Papa Sibiti.
Vous qui assumez l'intérim de mon directeur, mon fils.
Oui, tout à fait.
C'est Papa Sibiti.
Oui, c'est Papa Sibiti. On vous a reconnu par votre voix.
Voilà, je vous remercie pour ce que vous venez de dire. Concernant le président de la République, vous voyez, certains y voient en bien, d'autres en mal. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Nous qui disons ceci, est-ce que nous avons une force? Nous n'avons une force. Nous n'avons pas de force. C'est Voltaire qui a dit, peuple Voltaire.
Papa Sibiti, Papa Sibiti, nous avons un peu du mal à vous recevoir. Bougez un tout petit peu, oui.
Allô?
Oui, Papa Sibiti, allez-y. Je pense que le problème est toujours là, Papa Sibiti. Si vous pouvez nous rappeler, ce serait bien. 22-21-33-114, 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Oui, c'est Monsieur Ben de Thévier.
Monsieur Ben de Thévier, allez-y.
Oui, oui. Oui, s'il vous plaît, je vous salue, vous, à la plateau.
Merci.
Ouais, que Dieu vous bénisse, vous tous, là-bas.
Merci.
Je pose la question au peuple togolais. Nous voulons quoi au juste? Personne chez nous, dans nos jargons, dit que Amérim non, son ami aussi, sauf si on a maintenant des boumons. Si le président de la République ne nous conduit pas bien dans ce pays-là, mais au moment que nous sommes sous la colonisation française, non, attendez voir le chef de l'État, son retour, ce qu'ils ont discuté là-bas, nous on va attendre. Vous avez appris que le chef de l'État va rencontrer le président Macron. Mais vous envoyez encore les dossiers de saboter, de salir encore votre pays dans sous les régionales. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Il faut l'attendre. Le retour du chef de l'État, c'est qu'ils ont discuté avec son homologue français. Il faut l'attendre. Ne salez pas que vous faites la politique, mais vous aggravez la situation encore. Quelle que soit le fait, les deux chefs de l'État, ils vont parler. Mais Macron aussi ne peut pas laisser les peuples togolais dans la souffrance. Donc je vous en prie, aidez-nous. Nous, ceux qui sont des politiciens là, ils n'ont qu'à revoir leur copie aussi pour qu'au moins mettre l'eau dans les bains. Pour faciliter le travail aussi au chef de l'État. C'est ces entourages qui font des choses comme ça. Mais excusez-nous, je vous en prie.
Merci beaucoup, Monsieur Ben, pour votre intervention. 22-23-34. Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Le nom?
C'est Ali.
Ali, allez-y.
S'il vous plaît, soyons pratiques au Togo. D'abord, celui qui dit que nous n'avons aucune force est faux. Force nationale ne contrôle que notre délégation de pouvoir. C'est la population togolaise qui a confié le pouvoir à l'institution qu'il dirige. Nous avons plus de pouvoir, plus que Faure Gnassingbé. Un, celui qui vient d'appeler aussi n'a rien compris de l'histoire. Le Togo n'a jamais été colonisé et le Togo n'a jamais été colonie française. Et il vient de dire, en tant que colonie française, on n'a qu'à attendre le résultat de leur discussion pour faire quoi au Togo. C'est nous-mêmes Togolais qui souffrons. Lui, là, s'il mange ce midi, les autres n'ont pas encore mangé. C'est un pratique dans ce pays. Si Faure Gnassingbé déroule son programme de campagne qu'il avait fait, le Togo serait en paix. C'est ce que nous disons. Il n'a qu'à pratiquer ce qu'il a déjà écrit. Pourquoi il fait autre chose à la place d'autres? Imaginez le président de CENI, là, qui dit que le chronogramme ne sera pas dans le marché public. Lui qui est là-bas, là, ce n'est pas l'agent du marché public qui le nourrit. Il a...
Allô?
Pourquoi il ne veut pas montrer le programme? Toi, tu es directeur du centre des armées. On te dit, montre le programme des armées. Tu dis que c'est pas possible de montrer le programme du centre des armées. Est-ce qu'il lui peut afficher le résultat des armées, ça? Lui, il peut programmer le résultat? Déjà, comme ça, on doit le changer. Par rapport au procureur, lui aussi nous a dit dans ce pays qu'on n'est pas togolais. Seigneur aussi vient de nous montrer que tout le monde n'a pas droit à...
Ali, nous avons perdu Ali. 22-21-33-114. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour. S'il vous plaît, le nom c'est?
Kossi de Sagbado.
Kossi de Sagbado. Allez-y, Kossi.
Je salue le plateau.
Oui.
Je salue le journaliste Magloire pour ce développement.
Merci.
Vraiment, j'ai apprécié son développement. Le calme avec lequel il a parlé. Il a bien exposé les problèmes, mais il a bien aussi donné les solutions. Ce que nous avons comme problème au Togo, c'est qu'on ne fait jamais bien ce qu'on nous a conseillé de faire. C'est tout notre problème. L'enrôlement pour les élections à venir, mon frère, est-ce que ça aussi doit être un problème? Vous voulez enrôler les gens, les matériels. Est-ce que les Togolais doivent se plaindre encore avant que vous disposez le matériel pour l'enrôlement? Ou de deux choses, si vous voulez faire, vous le faites, si vous ne voulez pas le faire, vous sursuivez à ça et puis tout le monde est tranquille. Que de demander aux gens, venez vous faire inscrire, les gens viennent maintenant et vous dites, il n'y a pas l'argent. Moi, je dit que tout le monde n'a qu'à prendre conscience de ce qu'il est en train de faire, de la responsabilité qu'il a à faire développer ce pays. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Kossi de Sagbado. 22-21-33-74. Allô?
Allô, mon directeur, c'est oui. Moi qui reviens. Voilà. Vous m'entendez?
Oui, on vous attend maintenant, Papa Sibiti.
Bon, et que les gens m'excusent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes nos enfants, mais Dieu vous a donné le pouvoir. Nous devons vous respecter, c'est ça le pays, l'homme. Ce que j'ai dit, les forces, qu'est-ce que nous pouvons faire? Acceptons d'abord d'être plus intellectuel là-bas. Faible mortel, cesse de discuter contre ce qu'il faut adorer, a dit Voltaire. Nous allons voir ce qu'il va nous ramener. Ben, est-ce que quelqu'un a pu prendre sa place? Mais pour le moment, c'est lui. Acceptons d'abord et disons-lui, ça là, nous voulons ça. Vous voyez, c'est lui le président de la... Il ne me connaît pas. Vous voyez, vous êtes tous mes enfants. Nous avons parlé des élections. Je dis non. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez votre collègue qui a bien parlé des choses du président. Non. Bon, les élections. Que les gens, le président, je dis, lui, il n'a qu'à revoir pour que tous ceux qui n'ont pas eu la carte d'élection, là, d'électeur, qu'ils aient ça. Pourquoi on ne jette pas sur ça? Peut-être que c'est lui qui a fait que les gens n'ont pas eu la chose. C'est lui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Papa Sibiti. Je pense que c'est la fin alors de manifestations téléphoniques pour le compte de cette émission. Nous revenons en studio ici sur le plateau. Alors, Mangla, vous avez écouté les uns et les autres alors que se prononcer sur les sujets dont on a débattu ici au Club de la Presse d'aujourd'hui. Mais nous avons fait le constat, c'est que des gens sont revenus surtout sur la question de l'opération du recensement.
Ah, bien entendu, le constat là, il est unanime. Et je crois que ça doit être une alerte aux autorités compétentes, notamment la CENI et le gouvernement, à revoir les choses. Parce que vous savez, nous le disons, la politique togolaise est faite par des Togolais. À plus forte raison, c'est avec notre argent que nous organisons nos élections. Alors pourquoi ne pas prendre le temps qu'il faut pour organiser quelque chose de bien pour nous Togolais? C'est pour cela que je suis d'accord avec, je crois, le dernier auditeur.
Papa Sibiti.
Papa Sibiti, pour dire, ben, c'est vrai que la CENI, elle est indépendante, on le dit certes, mais elle est l'émanation d'une volonté politique, voyez-vous. Et donc, pourquoi pas le chef de l'État, à la fin, pourquoi pas, il peut décider, hein, à mon humble avis, il peut décider d'une prorogation à la fin de toutes ces opérations, qu'on permette à tous les Togolais qui le souhaitent bien de pouvoir avoir leur carte. C'est leur droit civique. On ne peut pas le leur interdire, encore moins que ça soit le fait des hommes que nous constituons. Je dis non. Et c'est également l'occasion pour moi de féliciter un autre auditeur qui a parlé beaucoup plus de la responsabilité des Togolais que nous sommes. Évidemment, moi je le dis toujours, le Togo en tant que pays n'a aucun souci. C'est nous les hommes qui posons toujours problème à ce pays. Pourtant, petit pays, le chef de l'État l'a encore dit tout récemment, petit pays, Dieu nous a doté de pratiquement toutes les ressources naturelles. On a tout, le Togolais, il est intelligent, il est patient, il est travailleur. Mais qu'est-ce qu'il faut véritablement pour que le Togo amorce son élan de développement? C'est nous les humains, c'est nous les Togolais. Si chacun faisait bien son travail dans son domaine, je crois que beaucoup de pays vont nous envier. Et ça, c'est pour cela que lorsque nous pensons qu'il y a quelque chose qui se fait de bien, on le dira, mais qu'on souffre également, qu'on relève des manquements et qu'on fasse des propositions pour pouvoir améliorer ce qui peut l'être pour le bon fonctionnement des choses, que ce soit les institutions de la République, que ce soit au niveau de tous les différents secteurs socio-professionnels, au niveau individuellement de nous Togolais, il va falloir que lorsque à un moment donné le devoir nous appelle pour travailler pour le compte du pays, il va falloir que chacun fasse bien son travail. Et ce n'est qu'en faisant comme cela, qu'on pourra laisser un pays vraiment sérieux à nos progénitures. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes des existants. Mais le plus important, c'est que faire et comment faire pour laisser un Togo sérieux qui soit vraiment apprécié par nos enfants, les Togolais dans les, peut-être dans les 15, 20, 30 ans à venir. Mm. C'est la plus grande équation. Du coup, quand chacun est devant un fait ou une tâche qui lui a été confiée dans ce petit pan de territoire que nous avons en partage, il va falloir qu'on fasse appel à nos consciences collectives pour faire bien ce que nous avons à faire. Mm. Et je crois que c'est ça. À la fin, on se sentira un citoyen utile à ce pays. Mais moi, je voudrais bien me mettre à la place et peut-être de ce membre, je le dis comme ça, du gouvernement, qui n'a pas vraiment permis à ce que la CENI puisse avoir les moyens pour faire son travail. Je veux bien me mettre à la place de ce membre de la CENI qui n'a pas véritablement permis à ce que les citoyens ou les OPS puissent avoir l'encre ou les papiers pour pouvoir enrôler les gens. Je veux me mettre à la place de l'agent de l'OPS pour me demander qu'est-ce qui peut m'amener à monnayer l'enrôlement de mes concitoyens par de l'argent. Je veux bien me mettre à la place de tout citoyen togolais à qui incombe une responsabilité dans ce pays. Pourquoi je ne fais pas bien ce que je devrais faire? Je crois que c'est un appel à nous tous et chacun devrait véritablement y penser pour que le Togo puisse être content de nous. Et donc, moi, je le dis encore une fois, ce n'est pas encore trop tard. Bientôt, les opérations vont démarrer dans la zone 2 pour finir dans la zone 3. Mais j'espère qu'à la fin, qu'on puisse encore dégager une période bien donnée pour que tous les Togolais puissent se rattraper, tous ceux qui voudront se faire recenser de le faire. C'est très important et pour notre responsabilité vis-à-vis de ce pays et pour le développement de ce pays et pour surtout la maturité démocratique de ce pays, il faut qu'on le fasse.
Il faut qu'on le fasse surtout pour la maturité démocratique alors de ce pays. Magula, je reste avec vous pour recevoir rapidement le carton de fin d'émission.
Ben, pas de carton, sinon j'envoie un gros coucou à tous les auditeurs qui très souvent ont de l'amabilité de nous écouter durant 90 minutes. C'est pas si facile, c'est pas qu'on connaît plus qu'eux.
Tout à fait.
Mais c'est une action collective, comme je le dis, c'est une démarche commune, c'est un mouvement d'ensemble. Chacun apporte sa contribution pour que le Togo puisse être véritablement le pays l'or de l'humanité dont rêvent tant nos aïeux. Pour finir, j'aimerais aussi inviter tous les usagers de la route, surtout ceux, n'est-ce pas, de la nationale numéro 5, la route d'Adido Gomé, à faire extrêmement attention.
C'est
parce
important.
Que ces derniers temps, vous prenez de la route d'Adido Gomé, il n'y a que des cas d'accidents qui s'enregistrent de la Pampa jusque vers
la douane,
un peu plus vers là où il y a
Zanguera.
Il n'y a que des accidents. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie.
Tout à fait.
Il faut absolument qu'on prenne soin de notre vie en conduisant avec patience, en conduisant nos engins avec prudence et on y arrivera.
Merci beaucoup, ma gloire. Madame Soussou, nous sommes à la fin de cette émission. Si vous avez un mot de la fin.
Merci, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et nous, le seul appel que nous faisons, c'est de demander à tous ceux qui nous ont suivis de transmettre à leur tour à tous ceux qui sont toujours dans cette obscurité, puisque nous, pour nous, dans le salon artistique, c'est une obscurité très, très noire. Et donc, de se réveiller, et nous, les parents, nous leur faisons un coucou, un appel, de se joindre à nous pour les aider dans l'éducation de leurs enfants, en orientant mieux les enfants vers les métiers d'art qui existent aussi, et en même temps, les aider à faire relever l'identité culturelle que leurs enfants, pour la plupart, ne savent pas, ou mieux même qu'eux-mêmes, ils ignorent. Et donc, le rendez-vous est à tout le monde. Et nous sommes là, on est en pleine instruction pour faire, on leur demande de faire inscrire leurs jeunes. Et même ceux qui sont suffisamment adultes, ils peuvent aussi venir s'inscrire pour profiter de nos activités.
On comprend juste que ces jeunes, alors, doivent tout faire pour quitter l'obscurité très, très noire, pour aller vers la lumière très, très claire.
La lumière, voilà.
Justement. Voilà. Alors, Madame Betsula.
Oui, donc, bon, c'est d'inviter les établissements, les parents, à motiver les élèves en général à s'intéresser aux mathématiques, et les filles en particulier. Et aussi, nous attendons l'aide de tout un chacun pour pouvoir faire la promotion des mathématiques auprès des élèves en milieu scolaire, et nous sommes ensemble pour travailler.
Merci beaucoup, nous sommes ensemble pour travailler. Alors nous souhaitons joyeux anniversaire à notre confrère Alphonse Logo Ken, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire également à Kiki Soussa, notre technicien Kiki Soussa qui célèbre aussi son anniversaire aujourd'hui. Alors merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à Madame Betula, merci à Madame Soussou, merci à Magloa d'avoir participé à cette émission, merci à vous qui nous avez suivis. Michel, merci à toi. On se retrouve la prochaine fois, mais déjà demain, à partir de 11h, c'est mon confrère Fousséni Saïbou qui vous retrouve. Au revoir.